Au milieu de la nuit, je descends de la moto en me félicitant d'être aussi près de mon lit, puisque me voilà devant chez moi. Je sais ce que je vais faire. Dormir, puis au matin, après le café au lait, avec ma petite famille, je téléphone à Michel. Mon cousin Michel, ancien professeur des universités, lui aussi, comme Dufour, mais dans un autre domaine, la civilisation anglaise. Car c'est en Angleterre que Mandeville est venu s'installer en 1690, et c'est là qu'il a été actif, à la fois comme médecin, mais aussi comme philosophe, économiste politique et satiriste. Michel est un sage qui a su prendre sa retraite au moment opportun. Le moment opportun pour un type comme lui, c'est celui où la lutte pour la survie devient tellement intense qu'il est temps d'arrêter. Les ennemis d'un professeur de faculté ne sont pas les étudiants, contrairement à ce que le sens commun pourrait faire croire, mais les collègues, car ceux-ci sont en compétition pour les bonnes places, et ils se privent rarement d'utiliser tout moyen jugé approprié pour y parvenir. Le mensonge, la délation et même la brutalité physique faisant partie de ces moyens. Quand on a dépassé la soixantaine, ça devient fatigant. C'est comme cela que Michel a pris sa retraite à un âge qui ferait rêver un travailleur manuel. Je le trouve en début de journée heureux de ne plus devoir se rendre dans l'un des amphithéâtres de Paris 4, hein, et heureux, me semble-t-il, d'entendre la voix de son cousin. Nous échangeons quelques nouvelles à propos de la famille, et le voilà qui me demande: qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Tu connais Mandeville, Michel? Bernard de Mandeville, oui, mais je ne suis pas un spécialiste. En plus, je me suis laissé dire qu'on ne connaît pas grand-chose de sa vie, bien qu'il ait vécu au XVIIe siècle. Et au XVIIIe, il est mort en 1733. Tu connais des Britanniques connaisseurs? Ah, bonne question, il faut que je réfléchisse. Tu veux quoi exactement? Des infos sur une lettre de lui connue de pratiquement personne. D'accord, intéressant ton histoire. Maintenant que tu m'y fais penser, je crois me souvenir qu'il était du genre sulfureux, non? On a brûlé des traductions françaises sur la place de Grève 10 ans après sa mort. Bien, laisse-moi y penser, je te rappelle dès que j'ai trouvé des infos pertinentes. Quel plaisir d'avoir un cousin à qui quelques mots suffisent pour comprendre un problème. La place de Grève, où est-elle au fait? Ou plutôt, sur quel emplacement actuel se trouvait-elle? Facile, c'est la place de l'Hôtel de Ville, dénommée aussi Esplanade de la Libération. Je décide d'aller y faire quelques pas, histoire de faire quelque chose qui soit en rapport avec mon affaire. Je constate qu'aucune statue de Jacques Chirac ou Bertrand Delanoë n'y a été érigée dans mon dos, car ces anciens maires de Paris auraient pu déclencher une fièvre commémorative dans les rangs des élus d'aujourd'hui. Je constate aussi que les passants n'ont rien de particulièrement inspirant. Entre bobos, street warriors, immigrés et touristes. Difficile d'imaginer l'ambiance au XVIIIe siècle. Un stand sous toile tenu par un barbu affiche sa raison d'être, hein, SOS homophobie, et ne concourt pas non plus à évoquer le passé, un passé moins favorable aux homosexuels qu'on faisait plutôt monter sur l'échafaud. Le barbu ne montre pas d'enthousiasme pour cette remarque dont je lui fais part, en toute bienveillance, puisqu'il avait l'air de s'ennuyer, sans personne pour venir le consulter, et dire qu'on a brûlé le livre de Mandeville ici même. Je vais vers la Seine en pensant à autre chose, à la proposition de Dufour, puisque Dufour m'a proposé de travailler pour lui, et je ne lui ai pas encore donné de réponse. Car aller dans le désert du Nouveau-Mexique pour soutirer à un fou ses réflexions profondes, sachant qu'il est protégé par des Navajos, ça mérite réflexion. L'idée ne me déplaît pas, mais il faut bien dire que les chances de réussite sont bien minces. Et puis, Dufour, qui raconte des bobards sur sa lettre, hein, il pourrait être tenté de m'envoyer là-bas pour m'éloigner de Brun. Pourquoi donc cette lettre leur tient-elle tellement à cœur? Brun m'a offert une grosse somme, alors que Dufour devrait allonger aussi une autre somme belle pour m'envoyer sous le soleil du Nouveau-Mexique. Mon cousin Michel a cela de particulier qu'il aime créer des situations comme au cinéma. Sa mère nous a souvent raconté qu'il organisait des soirées à thème où chacun se voyait attribuer un rôle et qu'il était tenu de jouer. Je me souviens de cette chasse à l'homme sur les quais de la Seine où il s'est fait arrêter par un peloton de policiers dont je faisais partie. La comtesse, victime du vol de ses bijoux, s'appelait en vrai Sophie, une amie d'enfance venue là avec un truand et deux inspecteurs. Nous pensions tous que sa vraie vocation était plutôt du côté de la comédie que de l'enseignement supérieur. Peut-être cherchait-il une petite compensation. Ce qu'il me dit au téléphone indique une permanence de cette tendance. Tu connais Londres, Léonard? Qui connaît Londres? C'est tellement grand. Oui, bon, tu y vas demain. Tu as trouvé quelque chose? Il faut que tu y ailles si tu veux savoir. Mieux vaut jouer le jeu pour éviter une discussion embrouillée. Je t'écoute. Je t'ai retenu un petit appartement à Fulham. Ok, ça tombe bien, depuis le temps que je voulais connaître Fulham. Tu peux galéger, mais je suis peut-être en train de te fournir la clé de ton mystère. Oui, cousin, je sais et j'apprécie. Tu parles comme Neil McBride, un héros de film sans doute, de série, Goliath. Tu ne l'as pas vu? Non? Mais comment il parle? Il dit sans arrêt « I appreciate ». Je vois, et quand je serai dans cet appartement, il se passe quoi? Tu profites de l'endroit et tu attends qu'on t'appelle. Ok, merci Michel, j'apprécie. Il glousse, puis raccroche. Nul doute que mon activité professionnelle stimule sa propension à se faire des films, dans l'un desquels il me met sans m'avoir demandé la permission. Le SMS qui suit me donne une adresse dans Lily Road. J'ai déjà envie d'y être.